Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 81e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu. Salut Caf.
Salut Faskil.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, super, je fais des nuits de 8 heures, je suis au taquet, c'est trop bien de dormir. En plus, tu sais, je dors la nuit moi parce que je suis hyper calé en ce moment, donc tout va bien. Voilà, crédibilité parfaite, je suis bon pour la politique.
Alors on va évacuer un truc tout de suite parce qu'apparemment on a tendance à le dire de trop, donc on va le dire une fois au début de l'émission. Plutôt cool, voilà, ça c'est fait.
Plutôt cool.
Maintenant, on ne le dira plus. En tout cas, on va essayer. On va commencer par le gaming avec Astroneer 1.0.
Ouais, alors c'est une news qui n'en est pas une, puisque je suis complètement à la bourre sur l'histoire. Hein, je sais, pour les fans, ils doivent se dire, mais pourquoi t'en parles maintenant? C'est sorti début février.
Bah écoute, moi, j'en avais pas entendu parler, donc voilà, très bien.
Est-ce que t'en as entendu parler tout court de ce
non,
titre?
Non, du tout.
Merveilleux, parce que alors, c'est vraiment une success story, mais qui est ignorée par plein de joueurs. Alors, Astroneer, en fait, c'est un titre qui a été développé pendant un bon moment, c'est en développement depuis 2015-2016 et c'est en early access en fait depuis plusieurs années. Comme c'est pas vraiment ma cam, je l'ai vu passer, etc. Mais moi j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de jeu, donc j'y suis pas allé entre guillemets. Et j'ai découvert la pépite grâce au fabuleux boulot des gars de chez Noclip qui font des documentaires sur le jeu vidéo, le développement, les coulisses, etc. Et qui sont, c'est une équipe qui a été montée à la base par un journaliste de jeux vidéo anglais, je crois. Et qui est un Patreon qui cartonne depuis un moment et qui fait vraiment un taf impressionnant. J'avais beaucoup parlé d'eux au départ parce qu'ils avaient fait une série en 4 parties, si ma mémoire est bonne, sur Doom, le remake de Doom, enfin Doom 2016, qui était vachement bien. Je pense que tu avais regardé ça.
Alors le docu, ça j'ai pas vu en revanche, mais du coup ça me tente bien. Ouais.
C'était hyper important, enfin hyper, pas important, mais hyper intéressant parce qu'ils parlaient justement hyper en détail des phases de gameplay et pourquoi ils avaient réussi à retrouver un petit peu l'étincelle qui faisait que ce genre de FPS était rigolo et amusant à jouer. Et du coup, je les suis régulièrement, je regarde leurs trucs, ils sont vraiment bien réalisés. Et Astroneer, bah, il fait un petit peu mal parce qu'en fait, il y a une histoire un peu triste dans l'histoire du développement du jeu, qui est la mort d'un des cofondateurs. Tu sens que la boîte va bien, mais que ça a été hyper dur pour les mecs qui étaient là depuis le début et qu'ils ont dû se reconstruire, apprendre à fonctionner différemment, et que le fait de bosser sur ce jeu alors que le directeur artistique n'est plus là et que sa patte est partout sur le jeu, bah c'était hyper compliqué. Donc je voulais en parler parce que le titre, du coup j'ai été regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Je confirme que c'est pas ma cam à moi, mais c'est un peu comme parler d'albums qui se vendent à des millions d'exemplaires et que toi tu fais non, c'est de la merde. j'aime pas quoi. Donc voilà, j'adore la directeur artistique, c'est effectivement ultra mignon, super bien fait, et toute l'histoire autour du jeu, moi m'a touché. Du coup, je vais pas y jouer parce que ça m'a touché, je vais perdre mon temps en vrai, ça va pas fonctionner. Donc Astroneer, à la base, c'est un jeu, c'est un bac à sable, vous avez des petits astronautes où vous allez bosser sur les planètes pour les rendre habitables, choper des ressources, construire votre petite base, etc., explorer, et le but, c'est d'aller de planète en planète, et de répéter entre guillemets la chose. Je simplifie en 3 secondes parce que j'ai pas envie de raconter trop de conneries. Le fait est qu'ils ont un atout par rapport à plein de jeux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de danger. Tu vois, t'as pas vraiment peur de crever, ou t'as pas vraiment peur d'avoir un timer, ton oxygène qui va se déplitide, comme ils disent en anglais. Un peu comme Subnautica ou ce genre de choses. Là, c'est encore... Enfin, Subnautica, il y a un mode justement, exploration, etc., où t'es pas vraiment en danger, enfin, où tu peux pas vraiment mourir. Mais là, c'est vraiment dans les bases de leur développement du jeu, c'était un truc où ils voulaient que ça soit cool, que... Oh merde, je l'ai dit. Il voulait que ça soit rigolo.
Non, c'était plutôt cool, donc ça
c'est
va.
Vrai.
Je vais mettre un buzzer, en fait, à chaque fois qu'on le dit, ça va être infernal.
Perché. Et franchement, allez voir le documentaire si vous connaissez pas le jeu. Si vous connaissez le jeu, mais que vous y avez pas du tout prêté attention au niveau de la sortie, etc., 1.0, etc., allez jeter un œil. Alors évidemment, il y a des vieux fans qui sont pas contents parce que le dernier patch a changé beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout qualifié pour donner mon avis sur l'histoire. Mais je voulais vraiment parler de ce jeu et le mettre en avant parce que ça m'a l'air d'être une petite pépite pour les fans de Minecraft stuff, on va dire. Et je trouve qu'effectivement, bah, ça m'étonne pas que tu sois pas au courant, parce que j'en ai parlé un peu autour de moi, et les gens m'ont fait, non, c'est quoi, genre des trucs avec des astronautes.
Pour rectifier, en fait, maintenant que j'étais voir sur le site, en fait, je pense que je l'ai vu passer dans une queue Steam, tu sais, les trucs de suggestions de Steam, et en fait, j'ai vu le truc, j'ai fait, ah non, c'est pas pour moi. C'est du jeu de, ça avait l'air d'être du jeu de micro-gestion, machin, où il faut.
Ah, pas du tout,
voilà, exactement, tu vois. Donc, c'est là où j'ai été peut-être mis, induit en erreur par rapport à ce que j'ai vu dans ma queue Steam. Donc, je vais retourner y voir quand même ce que ça vaut.
Bah, ouais, écoute, moi, j'ai regardé, en tout cas, tu regarderas les commentaires. Il y a des commentaires vraiment super intéressants avec une nana, entre autres, moi, qui m'a marqué, qui explique que, bah, écoutez, moi, j'ai plus de 50 ans, mon mari joue pas aux jeux vidéo, j'ai de l'arthrose dans les mains, je suis pas joueuse à la base, et là, j'ai 900 heures sur le truc. Merci d'avoir développé le jeu, machin. Elle leur fait une lettre d'amour, et voilà, ça prouve que le titre a trouvé son public et qu'il est vraiment très très différent de celui du jeu dont on va parler juste maintenant.
Devil May Cry 5 de Capcom.
Alors, on change d'ambiance, hein, de salle, des ambiances.
C'est ça.
Devil May Cry 5 qui est donc sorti cette semaine, qui bénéficie d'un test ultra complet sur Gamekult par l'ami Pipo Mantis, que je vous conseille d'aller lire et qui sera linké dans le billet qui accompagne nos podcasts comme d'habitude, hein, comme le docu de nos clips dont je viens de parler pour Astronir, etc. Et en plus, en cadeau bonus, je vous conseille, mais alors très fortement, d'aller passer la soirée avec les réalisateurs de ce jeu et de Resident Evil 2, puisqu'il y a un documentaire, un autre, fait par Toko Toko. Il se tire la bourre un petit peu en ce moment sur le documentaire de qualité avec nos clips, qui sort un truc, voilà, avec un style inimitable. Hein. C'est le style Toko Toko, très, très posé. Si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, allez-y, c'est mind-blowing. C'est incroyable le boulot qu'ils font sur la découverte de manga, enfin d'auteurs, d'artistes divers et variés, et c'est filmé mais avec un talent hallucinant. Et du coup, là, il y a un épisode qui est sorti cette semaine, un peu plus long d'habitude, hein, 45 minutes, qui est consacré à des légendes vivantes du jeu vidéo, et en plus tu passes la soirée en izakaya avec eux, en gros, quoi. Alors il y a des plans, il t'explique un peu le truc au niveau du boulot, t'as des plans dans les bureaux si tu veux chez Capcom, mais tu passes surtout la soirée avec eux, dans deux soirées différentes d'ailleurs, et les mecs te racontent leur passion, des anecdotes de développement sur des vieux jeux genre Rival School, etc. C'est génial, et évidemment ça parle du remake de Resident Evil 2 et de Devil May Cry 5, et c'est hyper intéressant. Donc pour revenir sur le jeu, je peux pas vraiment en dire plus que l'ami Pipo, qui a vraiment fait du bon boulot pour le coup sur ce titre qui est assez riche. Alors les fans, moi j'ai jamais été un énorme fan de la série, donc les fans vont me juger si je commence à raconter le scénario, mais en revanche le scénario, on est quand même du Devil May Cry, ça ressemble un peu à rien, on va pas se mentir. Quand tu regardes tout le déroulé du truc et tu vas sur la page Wikipédia, whatever, qui t'explique tout le déroulé du scénar, tu fais genre, ah ok. Et ils ont été hyper malins, parce que dans le jeu, quand tu le lances, il y a un previously, tu vois, tu peux lancer une vidéo qui va t'expliquer tout le scénar, en tout cas toutes les parties qui sont intéressantes pour comprendre Devil May Cry 5.
Ce qui est plutôt bien avec ce genre de jeu, parce que c'est comme ça, t'es pas obligé de te coltiner les 4 précédents avec des moteurs tout pourris qui datent d'il y a 10 ans.
Non, puis tu le feras, ouais. Puis tu le feras jamais, en vrai. Enfin, je veux dire, tu vois la gueule des vidéos, tu fais ça. Genre ouais, non, en fait, je vais pas y aller. Donc, du coup, ça, c'est vraiment cool pour se mettre. Ah, non, encore un cool. Attention, on n'est pas passé loin. J'ai failli dire plutôt cool. Hein. Tu sais, je me suis retenu. Et du coup, tu te dis, ok, c'est une bonne idée, mais quand la vidéo est terminée, tu fais genre, les gars, j'en veux aussi. Hein. Ça a l'air d'être de la bonne. Ça va très loin. Bon, on retrouve en fait 3 héros qui sont Nero, Dante et V. V, c'est le petit nouveau, qui a un style bien à lui. Je sais plus, d'ailleurs, Pipo le décrit, ça m'a fait beaucoup rire, mais effectivement, j'avais aussi un peu eu la emo vibe avec celui-là. C'est le héros en sandalette avec sa canne, qui ressemble à une petite brindille. Enfin, le mec est pas très musclé, tu vois, c'est pas le héros de jeu d'action classique. Donc, et il a un système de combat complètement différent, puisque lui, il va piloter, entre guillemets, des bestioles qui vont faire le taf à sa place, et lui, son gros travail, c'est pas de se faire défoncer, en fait, hein, c'est d'esquiver tout ce qui va lui arriver dessus. Du coup, le truc qui est le vraiment, moi, qui me sidère avec les derniers jeux Capcom, en fait, c'est la qualité du RE Engine, qui est vraiment, mais alors, de plus en plus maîtrisé par leurs équipes. C'est ultra beau. J'avoue que je suis hyper impressionné. Vous allez voir, il y a des vidéos partout sur YouTube et compagnie. Quand le jeu se lance la première fois avec les personnages les scènes, je vais rien spoiler, mais les scènes, les cinématiques, etc. Devil May Cry, pour ceux qui connaissent pas, c'est beaucoup d'action entrecoupée de beaucoup de cinématiques avec le moteur du jeu pour le coup. Et ça claque, quoi. C'est vraiment super beau. Je suis assez impressionné. Et puis la galerie de personnages intéressante, les dialogues sont à mourir de rire. Les compétences et la façon de se bastonner contre les monstres est toujours aussi variée et varie effectivement énormément entre les trois persos. Ça fait l'intérêt du jeu. Le truc qu'il faut absolument dire, c'est qu'il faut lisez tous les textes et lisez les descriptions de certaines armes. Si tout le jeu est comme ça, effectivement, c'est impressionnant. Je n'ai pas eu le temps de finir encore là, mais bon, je vous avouerai que le scénar n'est pas le truc qui me fait avancer dans le jeu. Donc Nero, c'est un mec qui a perdu un bras et du coup, il a des mains mécaniques. Okay. Et donc, dans son gameplay, lui, il a une copine mécano qui a des tatouages partout qui sont d'un certain goût, faut le dire, hein, et très bien réalisés. Je vous laisse apprécier la qualité du boulot. Et qui donc a une main, il a des mains complètement connes avec des pouvoirs, etc. Mais il a aussi une main fourchette pour faire les pastas. Et il a une main qui vibre avec une surface tactile hyper intéressante, tu vois, pour ne pas faire de brûlure, tu vois. Une main tactile, ok, qui serait un peu un truc qui masse. Ok. Tu vois où je veux venir?
Ouais, enfin, oui, en même temps, je suis pas sûr d'avoir envie.
Donc j'ai fait genre, ok, mais en quoi ça me sert pour les combats?
C'est pour après, c'est pour se détendre après les combats.
Waouh! Du coup, il est marqué, bon, je veux pas spoiler le scénar, mais il y a plein de blagues autour de ça, et tu fais, ok, les mecs, on n'a vraiment rien à foutre. Donc ça risque d'être très rigolo. Et ça l'est, effectivement. Bon, après, en termes de combat et trucs, c'est des héros qui peuvent sauter de 15 étages et pas se faire mal. Et dès le premier niveau, il y a un moment où tu dois balader dans les couloirs et tu peux pas sauter en bas, t'es obligé de te taper les escaliers en fait. Et là, t'es bloqué par des plantes et tu regardes le truc. Je fais, mais pourquoi je peux pas sauter la barrière en fait? Vous me faites chier les mecs en vrai. Donc il y a des trucs à ce niveau-là qui sont pas ultra logiques tout le temps, mais on s'en fout. T'es là pour démonter du gros monstre. C'est ultra joli. Les combos sont top. T'es un peu vénère quand tu finis un niveau et que t'as pas eu une bonne note. Tu vois, t'as le jeu qui juge en permanence, comme d'habitude dans ce genre de truc. Donc voilà, si vous êtes un fan de ce type de jeu d'action, allez jeter un oeil, je vous link, je le répète, mais le test de Pipo est vraiment super complet, et vous avez une tonne de vidéos sur le net pour aller voir la gueule que ça a. Franchement, si vous avez aimé les anciens, je pense que celui-là va vous plaire. Il a quand même pris, hein, je voudrais pas spoiler, mais il a un petit 8 sur 10 quand même sur Gamekult.
Oui, ouais, j'ai vu ça. Ouais.
C'est propre.
Allez, on passe du côté des apps et on va reparler plus exactement, parce qu'il me semble qu'on en avait déjà parlé, de Spark.
Ouais, on va faire ça super vite. C'est que Spark sort une nouvelle update là, une nouvelle version avec du rich text, mais de manière un peu plus propre que d'habitude. C'est pas juste du gras je peux mettre des trucs en italique dans mes mails. Non, là tu peux carrément faire des surlignages, changer les couleurs hyper facilement. Ils ont fait une interface super propre parce que l'interface de Spark à la base, elle est vraiment super classe. Et je voulais surtout en parler parce que y a pas mal de gens qui me demandent, mais écoute, il a l'air vachement bien ce client email, mais comment on fait pour s'en servir quand on a Android et Windows?
Et ben on attend
les gars, voilà. Parce qu'effectivement il est prévu, malheureusement on n'a toujours pas de date. Il est disponible uniquement sur macOS et iOS pour l'instant. En revanche, ils ont tout un système de librairie qui fait partie en fait du cœur du projet de la boîte, qui va leur permettre de porter leurs différentes applications sur Windows et Android de manière on va dire simplifiée. Ils ont une espèce de couche qui vient s'intercaler entre les librairies Microsoft, les librairies Apple, etc. Donc ils sont en train d'essayer d'avoir un système qui leur permet en gros d'avoir un peu comme le moteur Epic, tu sais, l'Unreal Engine, qui pour les jeux vidéo, eux, ce qu'ils voudraient faire, c'est des librairies qui permettent aux développeurs d'avoir des trucs à déployer facilement sur tous les systèmes, sans être obligé de faire de la web app dégueulasse que tu déploies avec des wrappers qui font que ça rame, les trucs, les, toutes les applications en électron qu'on a, genre les Slack et compagnie, qui sont toujours un peu lentes sur le reste et qui ça fait pas vraiment le taf. Donc on attend parce qu'ils en parlent depuis ça fait bien 18 mois maintenant et je ne vois rien venir. Donc bon, j'imagine que c'est pas aussi simple à faire que ça, et si ça l'était, d'autres boîtes l'auraient fait avant eux. Donc je leur souhaite bon courage, mais voilà, on vous tiendra au courant. En tout cas, si vous avez un Mac ou un iPhone, whatever, un iPad, Spark c'est une super appli mail, même si les applis de base Apple font taf pour plein de gens. Ça c'est un peu l'étape au-dessus, et rien que le fait de pouvoir envoyer des mails en décalé à l'heure que vous voulez, comment dirais-je, moi je trouve ça pratique pour pas avoir l'air du mec, on voit les trucs à 4h du matin.
C'est ça. Donc une app réservée aux machines de Team Apple, hein, comme l'appelle Trump, puisque je sais pas si t'as vu passer tout à l'heure, je trouve ça assez magique. Team Apple, donc. Team c'est Apple. Team Cook, monsieur.
Alors, ce qui est génial, c'est que derrière, j'ai quand même vu Boeing, qui a un blog hyper connu, qui a fait « Pas de problème, président banqueroute ».
Excellent. Allez, on passe du côté de la culture, et bien évidemment, vous l'avez sans doute entendu, c'était la sortie cette semaine du film Captain Marvel, un nouveau film du MCU, c'est le 21e déjà.
Ouais, no spoil.
Toi, tu l'as pas vu, donc
mais
je ne vais pas spoiler.
Mais je l'ai pas vu, et je peux pas le voir avant lundi prochain, donc je suis team Guérande, là, tu vois, je suis plein de sel.
Bah écoute, ça tombe bien, parce que au rythme où ça va, ce sera à ce moment-là que sortira mon dossier sur Geekzone. je vous prépare un petit dossier en ce moment, donc sur le film, comme à chaque fois qu'il y a un film du Marvel Cinematic Universe, mais juste, je voulais rappeler que voilà, le film est sorti mercredi. Il est déjà en train d'exploser pas mal de records, en fait. Alors ça, c'est assez surprenant parce qu'il y avait quand même une campagne un peu en demi-teinte. Et puis surtout, on avait peur que d'une part, le film souffre un peu de la sortie d'Infinity War Part 2, donc Endgame, dans 70 jours maintenant, donc dans pas très longtemps, dans un peu plus de 2 mois. On avait peur que ça lui fasse un peu de l'ombre. Et puis surtout, il y a eu toute une campagne de trolls en ligne qui ont dénoncé les élans féministes de Brie Larson notamment, et qui donc ont essayé de review bomber, comme on dit, le film. Ils avaient été poster des trucs sur Rotten Tomatoes, qui a dû changer son algorithme à la va-vite, parce que justement ça commençait à se voir un peu. Ils sont en train de faire la même chose maintenant sur IMDb pour essayer de démolir le film. Enfin bref, c'est assez rigolo de suivre ça.
Mais les mecs ont que ça à foutre, quoi.
C'est un peu ça le problème. Alors j'ai que les chiffres en France pour le moment, et en Belgique aussi, et en gros c'est le meilleur démarrage pour un film présentant un nouveau personnage du MCU. Donc si tu prends les autres films de la franchise, en France ils sont à 212 199 entrées.
Même devant Black Panther et compagnie.
Ouais, Black Panther c'était 124 000.
Wow,
Doctor Strange 144, Iron Man 186 000.
D'accord.
Donc pour une nouvelle franchise qui vient de se lancer, c'est pas mal du tout. on va dire que ça se passe plutôt bien, surtout que voilà, le film c'était pas gagné d'avance, hein. C'était un challenge un peu difficile, et puis c'est vrai que Brie Larson n'a pas beaucoup aidé non plus. Elle a été assez mal interprétée dans ses sorties en public, et c'est vrai que ça a été pas mal un petit peu du bruit dans la communication autour du film, et c'est vrai qu'on avait un peu peur que le film en souffre. Et ben manifestement c'est pas le cas, et les prévisions aux États-Unis sont vraiment très très optimistes, puisqu'on est à entre 100 et 150 millions sur le week-end d'ouverture, ce qui est relativement énorme aussi. Donc voilà, ça se passe bien. Il y aura un dossier très bientôt sur Geekzone pour vous parler de l'envers du décor du film. Si moi je dois donner mon avis, c'est un bon film du MCU. Moi je me suis bien éclaté. Brie Larson remplit bien son taf de Captain Marvel. On a droit à une origin story un peu différente de ce qu'on a d'habitude, donc ça c'est plutôt cool, ça change un peu.
Non, tu l'as dit, plutôt cool. Bip.
Ah mince.
Perdu, pardon. Voilà.
On a droit à une origin story vraiment cool, ça je peux? Non, même
pas. T'as le droit.
Bref, c'était plutôt une bonne surprise, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à un truc un peu cousu de fil blanc, et en fait finalement non, il y a quelques surprises agréables, quelques petits retournements de situation que moi j'avais pas vu venir. Et puis bon, ça fait toujours plaisir de retrouver Samuel L. Jackson, surtout dans sa version rajeunie, encore un peu agent du Shield, un peu foufou. C'était avant qu'il ait son œil crevé et son statut de vieux râleur du MCU. On retrouve l'agent cool, et ça c'est chouette aussi, et ça fera plaisir à Fox, qui est fan du perso, même si on ne le voit pas beaucoup. Que vous dire d'autre sans spoiler? Pas grand chose, hein. Si vous aimez les films du MCU de manière générale, allez le voir. Si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent des origin story du MCU, allez le voir aussi. Et quant aux gens qui se demandaient si c'était nécessaire de le voir avant d'aller voir Endgame, pas forcément. Il y a une petite connexion dans le film, mais qui n'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est quand même mieux de découvrir un peu qui est ce personnage, surtout que c'est pas un personnage qui est très très connu du grand public, Captain Marvel, donc c'est plutôt une bonne idée d'y aller, en fait, pour au moins savoir qui c'est quand vous allez l'avoir débarqué dans Endgame d'ici 2 mois. Bref, Captain Marvel donc dans les salles en ce moment, et le dossier très bientôt sur Geekzone. On reste dans la culture. Toi, tu voulais nous parler de quelque chose qui a rien à voir pour le coup. On va passer du côté de la comédie. C'est quoi, du stand-up?
C'est presque du stand-up. C'est un spectacle complet. C'est pas que du stand-up.
Est-ce que c'est un spectacle plutôt cool ou pas?
C'est plutôt cool, mon ami Fasquier.
Ça s'est fait.
Tu sais que tu vas avoir un truc extraordinaire. Hein. Genre, au pire, en montage bêtisier, t'auras de quoi faire. Donc Pulsion, c'est un spectacle de Kian Kojandi qui est sorti en 2017, et qui vient de mettre gratuitement à disposition sur YouTube, qui est un move de généreux de sa part, qui va faire découvrir un excellent spectacle à plein de gens qui ne se sont pas déplacés dans les salles, moi le premier. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'on est entre le stand-up et le truc un petit peu émouvant, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de... C'est écrit avec son acolyte Navo, que j'ai croisé en fait, parce qu'il me fait partie des gens qui me roulaient dessus pendant notre période Street Club, et le mec est très sympa mais surtout brillant, et à eux deux ils ont une plume à quatre mains qui est assez comment dirais-je, ça tape là où ça fait mal là, sur les trucs de la vie, et c'est pas que du stand-up drôle à l'américaine, pas du tout, c'est vraiment des trucs un peu émouvants aussi, c'est il est capable de parler de masturbation et de la mort, tu vois, ça, le grand écart est total, et c'est très bien fait, et voilà, genre c'est gratuit, donc moi ce que j'ai adoré, c'est il y a des commentaires, il y a des gens qui donc dislike, tu vois, c'est remboursé les invitations. Je trouve ça absolument magique, puisqu'en plus derrière fait oui, mais alors il y a quelqu'un qui dit mais c'est quand même incroyable les gens qui dislike un truc gratos comme ça sur YouTube, alors que voilà. Et puis t'as un mec qui fait genre moi je me suis fait chier, alors je le dis, tu vois. Donc on est vraiment dans une culture, t'as des gens, t'as envie de les baffer mais d'une force, donc évidemment que c'est pas pour tout le monde. C'est comme si tous les jeux vidéo devaient plaire à tous, ou tous les films devaient plaire à tous. Donc ce spectacle ne plaira pas à tout le monde, évidemment. En tout cas, jetez un œil. Et la fin est hallucinante. Mais pour plein de raisons. Enfin, même techniquement, je la trouve assez forte. Donc je spoil uniquement pour vous donner envie de le regarder jusqu'au bout. Ne regardez pas juste la fin, ne soyez pas débiles. ça serait vraiment vous gâcher le truc, puisque là, pour le coup, ça spoil plein de choses. Donc voilà. Donc Pulsion sur YouTube, gratos, le lien est dans le billet qui accompagne le podcast, comme d'habitude.
Et on passe du côté de la tech et on reparle de l'USB.
Ouais.
Alors est-ce que ça se simplifie ou est-ce que ça se complique?
Alors ça devient mieux, mais ça devient toujours, on sait pas encore, hein, parce qu'au niveau technique on sait ce qui va se passer, mais au niveau marketing, tu sais, les mecs trouvent des moyens de compliquer la situation pour rien, donc on verra bien ce que ça donne, hein. Donc l'USB 4 est sur les rails, les amis, et l'excellente nouvelle, et pourquoi tout le monde est très content, c'est que ça va être en fait un rebranding, et avec plein de choses à l'intérieur, puisque c'est les débuts, hein, des conversations et des spécifications de la chose, mais en gros ça va être le Thunderbolt 3 qui devient enfin ouvert, parce que Intel s'est rendu compte qu'ils ont jamais réussi à imposer le Thunderbolt, parce que les gens ne veulent pas payer, hein, c'est une constante dans la vie, les gens ne veulent pas payer. Donc ils se sont dit on va pas la jouer comme ça pour la prochaine génération, ce qu'on va faire c'est que le Thunderbolt 3 on va l'ouvrir à tout le monde, on va donner les droits pour que les gens puissent l'intégrer dans leur bécane, etc. Et du coup, ça devient les bases de l'USB 4. Alors, c'est une excellente nouvelle parce que le Thunderbolt 3, ça dépote. Ça permet plein de choses que l'USB ne permet pas. En termes de puissance de transfert, c'est vachement intéressant puisqu'on passe à plus de 40 gigas. Alors qu'actuellement, on est sur du 20 pour la dernière version de l'USB, la 3.2, rappelez-vous, hein, la 2.2, 2X2. Donc, je ne me rappelle déjà plus le nom marketing. Hein, mais bon, bref, on est sur un truc qui va deux fois plus vite de base, merci l'USB 4, et on est surtout sur un truc qui est capable de transporter du courant jusqu'à 100 watts, donc pour tout ce qui est périphérique avec chargement, etc., c'est hyper intéressant. Pour l'utilisation de cartes graphiques externes, c'est intéressant, enfin, ça ouvre des perspectives qui sont hyper larges, donc on regrettera très peu de choses de l'USB standard. Après, je sais pas du tout comment ils vont jouer le coup pour la compatibilité, etc., mais ça va jouer au niveau des puces qui seront intégrées. Mais on va suivre ça de près. Alors attention, c'est comme je disais, c'est le début des spécifications, des discussions, etc. Mais en tout cas, Intel est en train de pousser la chose dans le bon sens. On attend les specs complètes de ce truc-là sur la deuxième moitié de l'année. Donc on a encore le temps de se faire refourguer du 3.2 bizarre avant de pouvoir avoir de l'USB 4 qui, à mon avis, pour le coup, va vraiment être une avancée dans le standard assez massive, même si on est très content de ce qu'on a déjà, hein, mais là ça va à mon avis nous permettre d'être sur des bases solides pour les prochaines années, et ça c'est plutôt cool mon ami Fast.
Je sens que tu te moques là. Allez, on va terminer ce podcast avec une bonne surprise.
Ah là là, il en faut de temps en temps.
Bah oui.
On parlait d'argent tout à l'heure. Écoutez, il paraît que le prix de la RAM baisse en ce moment.
Non.
Alors, c'est pas, il paraît, hein, c'est sûr et certain. Donc, cette nouvelle m'a pris un peu par surprise, que je n'achète pas de matos en ce moment, ou en tout cas que des trucs avec des prix qui continuent d'être assez supérieurs à ce que j'avais l'habitude de payer. Mais la bourse de la RAM, on va dire, est sans appel. Ils ont dit ça y est, les prix s'écroulent. Et comme en plus il y a beaucoup de stock chez tout le monde, normalement ça va continuer pendant tout 2019. Sur certains secteurs, on annonce des reculs des prix de l'ordre de 30%, ce qui est plutôt cool, parce que j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on peut le mettre à toutes les sauces, plutôt
ouais,
cool.
C'est ça qui est plutôt
cool en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que les mecs sont en train de continuer à te fabriquer, et il n'y a pas d'arrêt de la prod vraiment net comme il y a eu à une certaine époque pour essayer de faire remonter les prix. Mm-hmm. On va voir ce que ça donne à long terme. Je vous link un papier de chez Mini Machine fait par l'excellent Pierre Lecourt, qui parle de ça en long et en large, qui source toutes ces infos chez TrendForce, qui a encore plus d'informations si vous êtes un fan de l'économie et que vous avez des billes dans le secteur. En attendant, quand vous montez un PC, bah normalement là, plus vous attendez en 2019, plus la RAM baisse, qui est c'était plutôt l'inverse ces derniers temps, donc
oui, c'est vrai.
On est plutôt content de voir ça arriver. Je me rappelle que il y en a certains qui ont fait des petites crises d'apoplexie en voyant les nouveaux tarifs, en disant mais je comprends pas, la RAM c'était pas un des budgets principaux de mon PC avant, donc ça devrait revenir à la normale. On va suivre ça de près, parce que si ça se confirme, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont upgrader en 2019, moi le premier.
Et c'est la fin de ce 81e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, vendredi dès 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, Kef?
Écoute, je pense que je vais dormir déjà. Tu vois, c'est un but qui me paraît pas mal. Sympa. Et je vais reprendre un peu les bonnes habitudes, parce que j'ai pas apexé beaucoup cette semaine, tu vois. Ah. Je fais quelques wins, mais tu sais, c'est important de garder la forme. Et c'est un entraînement, c'est la volonté. Non, je pense que je vais quand même être un peu sage, parce que j'ai quand même beaucoup de boulot, mais je te dis, ma priorité c'est mon lit là, et on se parle pas beaucoup en ce moment, ça me rend triste.
Oh. Allez, à la semaine prochaine, bon week-end, ciao. On retrouve l'agent Coulson aussi, donc ça c'est plutôt cool. Je dis, putain, il faut que j'arrête vraiment, quoi.
Ah, c'est beau, je gagne tellement haut la main sur ce podcast.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.